Vous écoutez RTL.
Et tout de suite dans la curiosité, le caca dans tous ses états. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est un objet de curiosité comme un autre, fondamental même, vous allez voir. Bonjour Caroline Balmache Aminadour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes journaliste. Le caca a beaucoup de petits noms très légers. Il y a des noms sérieux, bien sûr. Et tous ces petits noms rigolos, quels sont-ils? Parce qu'on en invente des mots pour nommer ces excréments.
On commence par une liste alors, c'est ça?
Voilà, une petite liste. Ouais. Non exhaustive. Alors, la crotte, évidemment, qui est aussi une friandise.
C'est mignon, ça.
Petite crotte en chocolat. Le popo, la grosse commission. Puis, un peu plus sérieux, le fameux mot de cinq lettres. Merde, évidemment. Hein, qui a été rendu célèbre par le général Cambronne. Et puis après, excréments, étrons, les selles, épreintes, etc., etc.
Pourquoi est-ce que l'humain a besoin de donner autant de petits noms à ses excréments?
C'est peut-être un petit peu pour l'amadouer, parce qu'il en a un peu peur, il en a un peu honte. Le caca, c'est à la fois familier, intime, dégoûtant, honteux. Et voilà pourquoi on lui donne des petits noms comme ça.
Alors que le pipi est mieux vu.
Oui, mais le pipi, c'est stérile. Alors que le caca ne l'est pas.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le caca est plein de bactéries, et qu'il y a le péril fécal, et donc des dangers pour la santé. Le caca, ça peut tuer.
Je vois venir la sortie d'émission, et Sidonie qui dit « Ah, faut qu'on fasse une émission sur le pipi ».
Je reviendrai.
Avec grand plaisir. Le caca, c'est une matière indispensable à notre bonne santé. Encore faut-il le connaître, le comprendre. Bon, restez avec nous, vous serez incollables.
Tout se passe bien? Ça va, ouais, je me sens bien, ça va.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais c'est pas trop dur pour toi? Non, ça va, c'est même plutôt mou, là, je dirais. Parce que...
14h-15h.
Bon, tu penses que tu vas t'en sortir, alors? Ah oui, c'est bon, ouais, je maîtrise ça, je le fais une fois par jour, donc je connais bien maintenant, ça va.
La curiosité est un vilain défaut.
D'accord, mais tu devrais quand même, hein. Ah non, moi j'aime bien rester sur le trône, moi je prends mon temps, je décompresse, quoi.
Sur RTL.
Comme toi, ça va faire du bien. Oh, attends, excuse-moi Thierry, là, faut que je raccroche, j'ai mon voisin de toilette qui répond à toutes mes questions. Va bientôt finir, non, pauvre type.
Un gars, une fille, version scatologique. Je me rappelais pas d'avoir vu ce sketch très très drôle. Jean Dujardin dans le rôle du gars, évidemment, qui apparemment était aux toilettes. Petit dialogue, petit quiproquo au travail, sans doute. En tout cas, vous saurez tout sur le caca. C'est la promesse du jour, une promesse sérieuse qui permet de mieux se connaître et de prendre soin de soi aussi. Et c'est la journaliste Caroline Balmache Aminadour qui nous accompagne. Pouvoir aller à la selle dignement, et ça, c'est extrêmement sérieux. Ça va pas de soi, et c'est d'ailleurs ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre très sérieux du caca aux éditions Jouvence. Quel calvaire ont vécu deux jeunes indiennes en 2014? C'est cette information qui vous a bouleversé.
Oui, c'était en 2014, dans un état du nord de l'Inde, deux jeunes filles, deux cousines, 12 et 14 ans, de la caste des intouchables, qui ont été violées et pendues par des assassins qui les attendaient à la sortie de leur village, parce que comme tous les jours, elles allaient faire leurs besoins à l'extérieur du village, parce qu'il n'y a pas de toilettes dans les maisons, il n'y a pas de latrines dans les villages.
Ça concerne beaucoup d'Indiens, ça?
Un Indien sur deux.
Fait ses besoins dehors.
C'est pour ça que ce fait divers abominable a déclenché une vague de prise de conscience en Inde. Le gouvernement a lancé un plan d'urgence de 18 milliards pour équiper l'Inde de toilettes. Et même Bollywood s'y est intéressé, puisqu'un film est sorti l'année dernière qui s'appelle Toilet Love Story. Vous pouvez traduire cabinet, une histoire d'amour. Alors à la sauce Bollywood, Bollywood c'est l'industrie cinématographique indienne.
Donc il y a la musique.
La musique, des danses, des couleurs, beaucoup de choses. Alors c'est l'histoire d'un monsieur et d'une dame qui tombent amoureux, qui se marient. Monsieur emmène madame dans son village. Madame découvre avec horreur qu'il n'y a pas de toilette et elle repart. Et monsieur mobilise tout le village avec des danses, des chants, ils font des latrines, il va chercher madame, il lui fait une surprise, madame reste, tout est bien, qui finit bien. Et ça, c'est un joli film, mais qui a attiré, qui a fait beaucoup d'entrées au box-office, qui prouve que c'est vraiment un sujet, c'est pas léger, quoi. C'est vraiment quelque chose.
Et ça concerne la moitié de l'humanité ?
Alors, il y a 4,5 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à un assainissement de base, c'est-à-dire des toilettes, des latrines, l'eau potable, les égouts, le tout à l'égout, etc.
Et en France, on est encore concerné par une pénurie de lieux d'aisance, comme on dit ?
Alors, on n'est pas très bien doté. En France, on est les cinquièmes en Europe. Les premiers, c'est les Espagnols qui ont plus d'1,3 toilettes par habitant. En France, on a 0,63. On arrive après, donc les Espagnols, les Anglais, les Italiens, les Allemands. On n'est pas très bien au niveau de l'hygiène, du reste on est connu en France pour pas être des gens très très propres, hein, je crois.
C'est d'un point de vue médical, est-ce que c'est mauvais de se retenir, de ne pas aller à la selle quand on en a envie?
Oui, alors déjà, oui, c'est pas bon parce que ça peut provoquer de la constipation, ça fait mal au ventre, et puis ça crée une peur peut-être chez les jeunes aussi d'aller aux toilettes.
Pourquoi on est mal à l'aise avec ça? Parce que là, on en parle assez naturellement, mais je suis sûr qu'il y a une partie de nos auditeurs qui se disent « c'est pas possible, ils parlent du caca sur RTL ». Nous, on n'a pas de tabou, mais pourquoi on n'est pas à l'aise avec le caca?
Le caca, c'est sale, c'est caca boudin, c'est dégoûtant, c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est Philippe Godberge, qui est gastro-entérologue et coloproctologue et qui a fait la préface de mon livre, et il dit « je ne suis pas cacatologue hein, », il tient beaucoup, oui. Dit-lui « c'est notre part d'animalité ». C'est ce qui nous reste de ce côté primitif, parce que vous aurez beau manger uniquement des pétales de rose délicieux et qui sentent très très bon.
Ça quand même donne quand même du caca, la pétale de rose?
Oui. Mais ça sent pas la rose.
Ah non, c'est vrai. D'ailleurs, combien de sel un humain produit chaque jour pour se rendre compte à quel point c'est notre quotidien?
Alors, on va pas faire peur aux gens qui n'y vont pas tous les jours, mais en moyenne, c'est 200 grammes par jour. Et je me suis dit que dans votre émission qui fait une heure... Pendant qu'on se parle, à la fin de l'émission, il y aura eu 39 600 tonnes de caca produits sur Terre.
Pas mal.
RTL, Thomas Hugues. Sidonie Bonnec.
Je fais uniquement caca dans mon jardin. Idéalement, les jours de pluie. Tout ça, c'est moi. J'en suis fier.
C'est de la merde?
Non, non, c'est Cloug.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah, la scène mythique du Père Noël est une ordure. Non, non, c'est Cloug, on a peur de rien dans la curiosité. Et surtout pas de parler de caca, sujet très sérieux qu'on aborde avec la journaliste Caroline Balmach-Aminadour. De quoi c'est composé, nos excréments? De quoi sont composés nos excréments?
Alors, le caca est composé à 75% d'eau et les 25% restants sont des matières sèches non digérées. On raconte, les médecins de Louis XIV racontent qu'on trouvait fréquemment dans ses draps des petits pois non digérés, des vers, enfin d'autres choses délicieuses.
Puisque Louis XIV faisait caca dans son lit.
Oui, il avait un petit problème de fistule.
Ah, c'est vrai.
Voilà, voilà.
Il ne pouvait retenir ses selles.
Voilà. C'est ça. Alors nous, c'est 75% d'eau, 25% des matières sèches non digérées, des cellules épithéliales, en fait c'est les cellules de la peau, les cellules des muqueuses.
Alors ce qu'on découvre aussi dans votre livre, Caroline Balmach-Aminadour, le livre très sérieux du caca, Le transit au-delà des tabous, c'est aux éditions Jouvence, c'est le tout premier caca humain. Il est important celui-là, il s'appelle comment celui du bébé?
Il s'appelle le méconium, ce sont des selles qui sont expulsées.
Enchantée.
Voilà, peu après la naissance, elles sont inodores, collantes, visqueuses, et puis de couleur brune ou noire plutôt.
Et alors c'est un caca en fait qu'on ne recroisera plus jamais dans la vie de l'enfant, c'est le premier déchet du tube digestif.
Voilà, c'est ça, exactement. Quand l'enfant naît, son tube digestif expulse cette matière qui ressemble à du caca.
Alors c'est dommage qu'il sent rien ce caca, puis après les cacas ils sont toujours un peu mauvais. Pourquoi ça sent si mauvais?
Parce que ça vient de ce qu'on mange, ça vient de la décomposition des aliments dans le côlon au contact des bactéries. On a des milliards de bactéries dans le côlon qui travaillent, qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote, ce qu'autrefois on appelait la flore intestinale. Et c'est cette décomposition qui forme des gaz et qui fermente et qui donne cette odeur.
Donc c'est bon signe quand ça sent mauvais, il ne faut pas s'inquiéter.
Alors selon ce qu'on mange, ça sent plus ou moins mauvais. Non, il ne faut pas s'inquiéter.
Est-ce qu'il y a un lien entre la couleur et l'odeur?
Oui, je vais vous citer un proverbe qui dit... Caca de fête, caca qui fouette.
Ah, c'est vrai, on l'a souvent entendu.
Ai-je répondu à votre question?
Mais oui, vous avez. Mais il y a des couleurs qui doivent nous alerter.
Oui, alors.
Jusqu'à présent, on a réussi à éviter le fou rire.
Voilà, on va y arriver.
Faut s'y tenir. On garde notre sérieux.
Bah, écoutez, quand vous mangez des carottes, il faut faire un vrai régime carotte. Hein,
ah oui.
Voilà, le carotène colore évidemment les selles d'une couleur un peu jaune. Si vous mangez plus d'épinards ou de haricots verts, ce sera plutôt vert. Maintenant, sans manger ces légumes-là, qui ont des pigments colorants, si vous avez des selles colorées anormales, il faut en parler à votre médecin. Des selles vert clair ou gris clair peuvent traduire un problème de foie, par exemple. Des selles noires et qui sont très mauvaises peuvent traduire une hémorragie haute.
C'est un vrai indicateur de santé. Il faut savoir décrypter ces selles,
oui,
en fait.
Il ne faut pas les négliger.
Alors, tous les cacas ne se ressemblent pas, ça c'est sûr. Qu'est-ce que des chercheurs de l'université de Bristol ont mis au point pour les classifier ?
Alors, ils ont mis au point une échelle qui s'appelle l'échelle de Bristol. Ce sont 7 types de selles, de la selle crotte de bique, si je puis dire, des petites crottes de bique toutes sèches, jusqu'à un caca très liquide qui traduit une diarrhée qui peut être grave.
Et c'est une étude sérieuse qui permet, par exemple, aux gastro-entérologues ou aux médecins généralistes de pouvoir répondre à leurs patients et leur dire si ça va bien, si le transit, si ça va, comme on dit.
Oui, comment ça va de ce côté-là.
Comment ça va de ce côté-là.
Voilà, comment ça
va. On rappelle ce que ça veut dire. Aller à la selle,
vous êtes bien allé à la selle.
L'origine de cette expression est liée au caca.
Absolument, hein, voilà, absolument. Voilà, donc les deux premiers types se traduisent plutôt une constipation. Les trois derniers, je lis, hein, morceaux mous au bord net, morceaux duveteux en lambeaux, pas de morceaux solides entièrement liquides, traduisent plutôt une diarrhée, donc un problème, un risque de déshydratation. Et les types 3 et 4, qui sont un caca dit... Alors eux le comparent, je cite, hein, à une saucisse ou un serpent lisse. Bon,
ça c'est les meilleurs caca qu'on puisse faire. Objectif à tenir.
Pendant la pause, je vais boire un peu d'eau pour me réhydrater. En tout cas, on va voir si l'histoire nous a légué quelques caca. Oui, réponse à venir sur RTL, notamment avec celui d'un homme de Néandertal très bavard. Vous verrez, à tout de suite.
Dans mon monde, à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah bah ça y est. Oh, dis donc, hey, ça fait un quart d'heure que tu fais trembler les murs là, mon bébé. Hein. C'est les canons de la barre.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Amour, un seul mot et vous êtes mort.
Sur RTL.
Mais alors elle fait caca.
Et oui, les filles font caca.
Ben oui, c'est normal. Entre autres, extrait de Caméra Café. Voilà, les humoristes forcément s'emparent de ce thème qui nous fait beaucoup rire. Moi, j'ai un de mes meilleurs souvenirs dans l'émission, je crois que c'était Palace, les brèves de comptoir avec Jean Carmet qui nous délivrait comme ça quelques saillies, si j'ose dire. C'était celle-là, je vous la livre. Il a dû faire une drôle de tête, le premier homme qui a fait caca.
Bon, voilà, vous l'avez compris, c'est Caca Story dans la curiosité ou comment mieux connaître son caca pour mieux se comprendre. Caroline Balmachaminador, vous êtes journaliste et des cacas de l'histoire, justement, vous avez raison d'en parler, Thomas Hugues, il y en a eu et notamment une crotte pétrifiée qu'on a découvert dans le sud de l'Espagne et qui a été très bavarde.
Oui, le caca parle et peut nous raconter beaucoup de choses. On a retrouvé des excréments pétrifiés vieux de 50 000 ans dans le sud de l'Espagne qui révèlent que les hommes de Néandertal avaient une alimentation variée. Ils mangeaient de la viande, des plantes, des fruits à coque. Donc, ils étaient comme nous, omnivores. L'histoire ne dit pas s'ils mangeaient 5 fruits et légumes par jour.
Donc, ça les rapproche. Hein, cette petite crotte, en fait, à travers l'histoire, nous rapproche des Néandertaliens, c'est ça, de l'homme et la femme de Néandertal.
Voilà, si toutes les crottes du monde se donnaient la main.
C'est joli. Pourquoi pas ?
Le caca qui nous intrigue, il nous fait rire, il nous gêne aussi, on l'a dit. Et puis ça inspire les scientifiques. Par exemple, ce scientifique japonais, en 2014, qu'est-ce qu'il a proposé, lui ?
Alors, on mange aujourd'hui des insectes, des fourmis. Voilà, maintenant, on va peut-être manger du caca. Parce que, oui, c'est un scientifique japonais, alors je ne me lancerai pas dans son nom, M. Ikeda, qui a mis au point un shit burger à base caca burger. Un steak réalisé à partir de matière fécale contenant 63% de protéines et 3% de lipides. Donc
c'est du poison, non ?
Non, évidemment, les bactéries des matières fécales ont été éliminées. Et il a rajouté de la sauce soja, de la sauce steak et puis un petit colorant rouge pour faire appétissant. Et lui, il dit que son steak pourrait être une solution à la malnutrition dans le monde et qu'il est très écolo puisqu'il permet de recycler les déchets humains, de diminuer les gaz à effet de serre dus à l'élevage et de réduire l'abattage des animaux. Bref, on n'a plus qu'à s'y mettre.
Hein. Mais il a été pris au sérieux ou pas?
Franchement, j'hésitais à manger des insectes, mais du coup, je vais peut-être m'y mettre à manger des insectes.
Non, mais c'est cher.
Pour éviter son hamburger, là.
Voilà, pour l'instant, c'est cher à fabriquer, mais bon, pourquoi pas? Ils réfléchissent.
Le caca, nos excréments, qui inspire aussi certains artistes. Alors là, on est en 1961, donc c'est pas récent, avec un certain Piero Manzoni. Qu'est-ce qu'il réalise?
Alors, il a eu l'idée, Piero Manzoni. Il considérait que son caca était une œuvre d'art. Et donc, il l'a mis dans des boîtes de conserve.
Quel vantard !
Et ça a marché. 90 boîtes de conserve marquées merde d'artiste, contenu net 30 grammes, conservées au naturel. Produit et mis en boîte au mois de mai 61. Il y en a une qui a quand même été adjugée chez Christie's à Londres en 2015. 200 000 euros. Donc, voilà, mais c'est une œuvre d'art.
Et alors, il y a certains acheteurs, paraît-il, qui se sont plaints parce que certaines boîtes n'étaient plus très hermétiques. Qu'a répondu le commissaire priseur face à ces plaintes ?
Alors, il y a eu quelques petits problèmes d'étanchéité qui pouvaient chagriner à la fois le porte-monnaie et les nez sensibles. Mais le commissaire priseur a répondu que ça faisait partie de l'œuvre elle-même. L'œuvre évolue et devient alors une performance.
On peut aussi avoir une parabole sur l'art contemporain et certaines... œuvres, entre guillemets, qu'on peut trouver dans les expositions. Forcément, si on parle caca, excréments, on pense à psychanalyse. Freud en a parlé.
Alors, pour Freud, c'était non seulement un besoin physiologique fondamental, mais c'était aussi, évidemment, une source de plaisir et un moyen de relation au monde pour le jeune enfant. En fait, pour l'enfant, quand il passe de la couche au pot, c'est une étape de socialisation qui est fondamentale pour lui. Et c'est le moment où il se rend compte qu'il peut faire plaisir à ses parents. Il a un moyen de pression. C'est le premier cadeau du bébé à ses parents, finalement.
Mais c'est vrai qu'on est devant le pot comme ça, et dès qu'on entend la petite crotte tomber, on est tout fiers.
Voilà, bravo mon chéri, maintenant on va le jeter parce que c'est dégoûtant.
Et c'est ça.
Voilà. Mais aussi, c'est parce que l'enfant est propre et qu'il a appris à renoncer à son caca dans les cabinets qu'il peut entrer à l'école.
Et oui, donc le caca est un passage vers l'âge adulte aussi, Caroline Balmach-Aminadour. Quand l'amour du caca va trop loin, on parle de pathologie du type coprophagie par exemple. Qu'est-ce que c'est ?
Alors coprophagie, c'est la consommation de matière fécale. Ça témoigne d'une régression à un stade primitif du développement infantile que Freud appelait le stade anal. Et c'est un comportement pathologique.
Mais ça, c'est comment ou ce genre de pathologie ou ça reste quand même très exceptionnel ?
Alors, j'ai interviewé dans mon livre pas mal de spécialistes, dont une psychologue clinicienne, Alexandra Leduc, qui m'a expliqué que le caca a une place importante dans les troubles du comportement, les troubles obsessionnels, les névroses, le contrôle de soi, de la défécation, la rétention et l'obsession de la propreté et de la saleté, effectivement.
Et puisqu'on est dans les mots savants, coprophilie ? Ça veut dire quoi ?
Coprophilie ou scatophilie, c'est la recherche du plaisir lié aux matières fécales.
Merci beaucoup. On ne va pas dire que vous nous avez fait plaisir, mais en tout cas, vous nous avez passionné avec votre histoire du caca, votre science du caca. Merci infiniment, Caroline Balmach-Aminadour. Plein d'infos encore à découvrir dans ce livre très sérieux du caca. C'est aux éditions Jouvence. À bientôt.
Merci, Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.